Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le rapport annuel sur les centres de rétention administrative rendu public par 5 associations, dont SOS Solidarité. Près de 16 000 personnes ont été placées dans les 21 centres de métropole en 2022. Notre invitée sera Mathilde Buffière, responsable du service rétention au sein de l'ONG SOS Solidarité. La France a inauguré un nouveau centre des demandes de visa à Mossoul, dans le nord de l'Irak. La première initiative européenne de ce type dans cette métropole, arrachée aux membres du groupe État islamique en juillet 2017. La 6e conférence nationale du handicap, hier à l'Élysée, le président français s'est notamment exprimé sur l'accessibilité. La mise en accessibilité des lieux recevant du public bénéficiera d'une enveloppe de 1,5 milliard d'euros, extrait dans votre édition. Emmanuel Macron marque aujourd'hui le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Le président français rend un hommage à Toussaint Louverture au château de Joux, dans le Doubs. Gros plan sur les centres de rétention administrative en France. 5 ONG ont rendu hier leur rapport annuel. Rapport qui indique que 44,6% des personnes placées en rétention ont été éloignées. Entretien avec Mathilde Buffière, responsable du service rétention au sein de l'ONG SOS Solidarité.
On publie chaque année avec les autres associations intervenant pour l'accompagnement juridique dans les centres de rétention administrative un rapport pour présenter nos principaux chiffres et nos principaux constats sur l'année. Alors déjà, ce qu'on constate cette année, c'est que le nombre de personnes placées en centre de rétention a continué d'augmenter. C'est le cas, il y avait eu une grosse baisse du nombre de personnes enfermées en 2020 du fait de la crise sanitaire, mais depuis ça remonte, et puis sur une perspective plus longue, ça continue d'augmenter également. On constate également le recours à l'enfermement dans les centres de rétention est très souvent effectué sans forcément une analyse très poussée de la situation individuelle des personnes. Et on regrette que ce soit une des décisions prises de manière trop systématique. Alors que la loi précise que ça doit être pourtant quelque chose qui est utilisé en dernier recours. On constate également que la durée moyenne de maintien dans les centres de rétention continue de s'allonger. Elle est aujourd'hui d'environ 23 jours, alors que ne serait-ce qu'en 2017, elle était de moins de 13 jours. Donc c'est très marquant cet allongement successif. Cette année, on a décidé de focaliser notre attention sur une thématique principale qui est autour de la question de menaces pour l'ordre public, qui est une notion qui est extrêmement utilisée par l'administration aujourd'hui pour justifier l'enfermement des personnes en rétention, mais qui nous pose beaucoup de questions. C'est sur ce sujet-là qu'on a décidé de porter notre analyse cette année. Après, comme tous les ans, on pointe également le fait que encore beaucoup trop d'enfants sont enfermés dans les centres de rétention, accompagnés de leurs parents et également des personnes qui sont considérées comme majeures par l'administration mais qui, elles, se déclarent mineures. Et puis, on développe la situation très particulière de l'outre-mer où le cadre légal est parfois différent et où les centres de rétention concentrent la grande majorité des placements sur l'année.
Les dérives que vous déplorez, elles sont liées aux directives du ministère de l'Intérieur aujourd'hui ?
Je pense que le cadre légal existant est toujours forcément soumis à interprétation par les préfectures et par les administrations qui prononcent les décisions d'éloignement. Donc, le fait que la situation individuelle ne soit pas complètement prise en compte, c'est quelque chose que la loi prévoit normalement, d'une prise en compte assez assidue de la situation de la personne sur le territoire français, de ses liens notamment familiaux, de son état de santé, etc. Nous, on regrette que ce soit pas toujours quelque chose qui prime dans les décisions de l'administration. Donc ça, c'est pour ce qui est de la responsabilité des préfectures. Les juridictions ne sanctionnent pas toujours ces décisions-là de l'administration non plus. Donc les personnes sont quand même maintenues en rétention alors qu'elles auraient potentiellement la possibilité d'être libérées par des juges. Mais par contre, effectivement, on voit que les directives données par notamment le ministère de l'Intérieur ont un impact fort sur la situation en rétention. Cette année, ça a été le cas avec notamment une circulaire qui a été publiée en août 2022, dans laquelle le ministère de l'Intérieur demander aux préfectures justement de privilégier l'enfermement des personnes que l'administration considère comme une menace pour l'ordre public. Mais le problème étant que cette notion-là n'est définie nulle part et que du coup elle donne lieu à beaucoup de décisions très arbitraires ou en tout cas qui ne prennent pas suffisamment en compte la situation individuelle des personnes et qui se basent sur des faits qui ne sont pas toujours ni reconnus comme vrais ou pour lesquels les personnes ont été condamnées, pour lesquels les faits ne sont pas toujours actuels non plus. Donc voilà, ça pose plein de questions. Cette directive très générale qui a été donnée à ce moment-là.
Et face aux faits que vous avez constatés au sein des 25 centres de rétention administrative, que demandez-vous aujourd'hui à l'exécutif ?
La demande qu'on porte collectivement au niveau de nos associations, c'est vraiment de respecter les garanties et les droits qui sont prévus dans la loi pour les personnes étrangères qui sont enfermées dans les centres de rétention. De respecter le cadre légal qui encadre cette pratique et ce recours à l'enfermement, et de prendre en considération systématiquement et de manière très individualisée la situation des personnes sur le territoire français, ce qui pour l'instant n'est pas encore suffisamment fait. On se positionne également, en tout cas au niveau du groupe SOS, contre l'enfermement administratif des enfants dans tous les centres de rétention.
Vous évoquez un taux important d'enfants retenus dans ces centres. Quel est ce taux ?
On a eu cette année 94 enfants qui ont été retenus dans les centres de rétention de métropole. Ils sont beaucoup plus nombreux, à peu près 30 fois supérieurs en Outre-mer. Donc c'est le recours à l'enfermement pour... les familles accompagnées d'enfants est encore légal aujourd'hui. Néanmoins, il est censé être utilisé vraiment en dernier recours. Et dans les constats qu'on fait, en tout cas en métropole, c'est que en fait, l'administration utilise la rétention pour les familles, notamment pour faciliter l'organisation matérielle de l'expulsion, donc pour des durées relativement courtes, mais qui quand même sortent du cadre qui est prévu par la loi.
Le cadre prévu par la loi, les personnes retenues ne peuvent pas l'être plus de 3 mois, c'est cela ?
Alors oui, de manière générale, effectivement, la durée maximale d'enfermement en rétention est de 90 jours. Les personnes ne sont pas retenues plus de 3 mois, c'est-à-dire que c'est vraiment une durée maximale et une fois que ces 90 jours sont passés, si la personne n'a ni été expulsée ni libérée par une juridiction ou par la préfecture, elle est automatiquement libérée. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, à l'issue de leur période de rétention, vont par exemple refuser d'exécuter l'éloignement qui est prévu pour eux, de monter dans l'avion. Ce refus-là, c'est un délit et c'est pénalement répréhensible. Donc les personnes vont être placées en garde à vue et parfois condamnées à une peine de prison ferme pour ça. Et donc on va avoir régulièrement des personnes qui restent plusieurs semaines ou plusieurs mois en centre de rétention, qui ensuite sont directement condamnées à une peine de prison et donc qui enchaînent avec une privation de liberté en détention et qui à leur sortie de prison sont immédiatement replacées au centre de rétention et qui peuvent comme ça enchaîner plusieurs périodes d'enfermement consécutives avec des privations de liberté extrêmement longues et toutes les conséquences que ça a en termes de tension, de violence, de niveau d'anxiété, d'impact sur la santé physique et mentale des personnes.
Et quel état des lieux faites-vous concernant l'accès aux droits des personnes qui sont dans ces centres de rétention ?
On constate régulièrement des décisions qui ne respectent pas le cadre légal prévu dans les textes. Les personnes qui sortent de prison sont dans une situation qui est particulièrement marquante dans le sens où lorsque la décision d'éloignement leur est notifiée, elles sont souvent enfermées en détention ou contrairement à la rétention, il n'y a pas d'accompagnement juridique systématique qui est prévu. Et donc très souvent, ces personnes arrivent au centre de rétention sans avoir pu contester la décision d'éloignement dont elles font l'objet, ce qui met clairement en danger leur droit à un recours effectif. Puisque du coup, elles ne peuvent plus faire valoir leur situation individuelle sur le territoire français en faisant un recours contre ces décisions-là.
De quelle nationalité sont les personnes en centre de rétention aujourd'hui en France, les principales nationalités ?
Les principales nationalités des personnes enfermées, c'est quand même essentiellement des personnes de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, qui font quand même partie, qui sont 3 nationalités qui font partie des 4 principales nationalités enfermées. Il y a également les Albanais qui sont très représentés, qui sont la 2e nationalité enfermée. Les Albanais restent la 1ère nationalité éloignée, ce qui n'est pas du tout le cas pour le coup des Marocains par exemple ou des Tunisiens. par rapport à la proportion de personnes qui sont enfermées. Ils ne font pas partie des nationalités les plus éloignées, certains partent évidemment, mais on sent que les personnes sont placées et maintenues en rétention, alors même que l'éloignement n'est pas du tout systématique et automatique. Là encore, contrairement à ce que prévoit la loi qui indique que la rétention ne peut être utilisée que quand il existe des perspectives de renvoi raisonnables et à bref délai.
La première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi que la loi sur l'asile et l'immigration ne sera pas présentée en tous les cas prochainement au Parlement. Comment est-ce que vous accueillez cela ?
Nous, on avait quand même fait remonter nos observations sur le projet de loi qui avait été présenté à la fin de l'année 2022. Notamment dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que une des mesures phares était de supprimer un peu les garde-fous contre l'expulsion pour certaines catégories de personnes qui sont aujourd'hui protégées, ce qui nous posait beaucoup de questions, et notamment sur la compatibilité de ces décisions-là avec les conventions internationales qui respectent notamment le droit à la vie privée et familiale, etc. Donc, le fait que l'examen de ce texte soit reporté est a priori plutôt une bonne chose parce qu'on ne l'accueillait pas vraiment d'un œil favorable. Néanmoins, a priori, les orientations restent les mêmes et le contenu de ce qui est prévu a priori n'évoluera pas ou peu. Donc, pour le coup, ça ne correspond pas à nos recommandations en tout cas.
Mathilde Buffière, responsable du service rétention au sein de l'ONG SOS Solidarité. La France a inauguré un nouveau centre des demandes de visa à Mossoul, dans le nord de l'Irak. C'est la première initiative européenne de ce type dans cette métropole, arrachée aux membres du groupe État islamique en juillet 2017. Le consul général de France à Mossoul estime que l'ouverture de ce centre traduit concrètement l'engagement français envers Mossoul et la province de Ninive, et il souligne qu'il facilitera les demandes de visa pour les habitants, en particulier les étudiants, les académiciens, les hommes d'affaires et les touristes. Jusqu'à présent, les résidents de Mossoul devaient parcourir quelques 500 km pour effectuer leur demande de visa à Bagdad. L'Organisation mondiale de la santé évoque un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire par des soldats au Soudan. Il est situé près de la capitale Khartoum. Le laboratoire stockait avant sa capture des échantillons de souches de maladies mortelles comme la polio ou la rougeole, mais aussi le choléra. Emmanuel Macron marque ce jeudi le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Le président français rend un hommage à Toussaint Louverture au château de Joux dans le Doubs, là où le général franco-haïtien fut emprisonné jusqu'à sa mort. L'Élysée évoque une figure universelle qui a accédé au savoir et qui toute sa vie défendra les idéaux des Lumières. La 6e conférence nationale du handicap, c'était hier à l'Élysée. Il s'agissait de présenter le bilan des politiques publiques engagées pour les personnes en situation de handicap. Le président français s'est notamment exprimé sur l'accessibilité. La mise en accessibilité des lieux recevant du public bénéficiera d'une enveloppe de 1,5 milliard d'euros, Emmanuel Macron.
Troisième grand chantier, celui de l'accessibilité. Alors ce chantier, c'est loin d'être une découverte, ça fait 20 ans qu'on prend des engagements, et c'est celui qui, je dois le dire, je le sais ô combien, empêche tant et tant vos vies, l'accès à un logement, l'accès parfois à un emploi et au fond aux droits les plus fondamentaux. Alors, plusieurs choses ont été faites durant ces dernières années et je vais ici les rappeler. Autant l'école a vu de belles transformations, mais des améliorations radicales, autant sur ce plan-là, je dois dire que nous n'avons pas été aussi transformants. Alors depuis 2014, vous le savez, les agendas d'accessibilité pour programmer et chiffrer les travaux ont été engagés. Sur 2 millions d'établissements recevant du public, il n'y en a que 900 000 qui se sont inscrits. Donc je le dis sans détour, c'est très insuffisant, mais je fais le constat avant d'aller sur la suite. S'agissant du numérique, la majorité des outils, des produits, des services sont encore inaccessibles. Nous avons toutefois transposé cette année la directive européenne pour l'accessibilité des biens et des services qui renforcera les exigences à compter de 2025, ce qui est une attente forte. Mais le problème de l'accessibilité, c'est que c'est un enjeu à 1000 acteurs. L'État, bien sûr, mais aussi toutes les collectivités territoriales, les entreprises privées. Et donc on voit bien qu'on doit essayer collectivement de changer radicalement de méthode. Et je ne veux pas m'arrêter à la feuille de route de cette CNH sur ce sujet. Je vais donner un premier cap, mais il faut qu'on se donne un rendez-vous dès l'année prochaine sur ce point, parce qu'on va essayer de donner un coup d'accélération. On fera un bilan en 24, mais il faudra à ce moment-là envisager un système de sanctions. On le sait bien. Je ne suis pas favorable, je n'ai pas retenu l'idée de tout de suite mettre des sanctions, parce qu'il faut déjà mettre les moyens, essayer d'accélérer. Mais sinon, je peux vous tenir un discours aujourd'hui, et on passera beaucoup de CNH à reparler d'accessibilité en continuant d'imaginer Sisyphe heureux. Et je pense qu'à un moment donné, ça atteint la crédibilité de la parole publique. Donc pour cela, l'État va consacrer 1,5 milliard d'euros. C'est une ligne budgétaire lourde. Certains voulaient plus, beaucoup proposaient moins. Ça n'est pas un jugement de Salomon ni une décision de Normand. C'est une ligne budgétaire conséquente qui doit être suivie d'effet.
Le président français Emmanuel Macron, hier, lors de la conférence nationale du handicap à l'Élysée. 13e journée de mobilisation intersyndicale, lundi 1er mai prochain, contre la réforme des retraites, le jour de la fête du travail. Le trafic aérien s'annonce très perturbé à cause de la participation de contrôleurs aériens au mouvement de grève contre la réforme. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vol à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles de Gaulle. Deux personnes sans abri sont mortes dans la nuit après avoir été percutées par une rame de métro à Paris. C'est arrivé à la station Gaîté dans le 14e arrondissement. Ces personnes sont descendues sur les voies avant d'être percutées par la rame qui rentrait en station. Une enquête de police est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour votre journal. Et si on en parlait, à 19h et 23h, le thème de cette émission, les libertés associatives sont-elles menacées par le gouvernement? Alexis Bachelet recevra Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, et Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est très précisément 12h17.